Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Jean-Michel Genest et Philippe Grosot pour parler d'un ouvrage fraîchement édité qui s'intitule « Préhistoire, nouvelles frontières ». Alors cet ouvrage a été co-dirigé par vous-même, Jean-Michel Genest, directeur général du patrimoine honoraire, Philippe Grosot, professeur de philosophie à l'université de Poitiers, et Boris Valentin, professeur de préhistoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On excuse Boris pour son absence, puisque là, on est en période d'examen, de soutenance, de master, etc.
Exactement, et nous sommes à Bordeaux.
Donc. Et nous sommes à Bordeaux, donc il ne pouvait pas être là. Alors, pour donner envie aux personnes qui vont suivre ces minutes de présentation et d'échange sur votre ouvrage, ma première question, avant de parler un petit peu plus précisément de l'ouvrage, c'est qu'est-ce qui fait qu'un professeur de préhistoire, qu'un conservateur général du patrimoine et qu'un professeur de philosophie ont envie de se lancer dans l'écriture et la coordination d'un ouvrage sur la préhistoire?
Je réponds le premier. Simplement parce que mes collègues et moi, nous nous sommes de manière égale trouvés confrontés aujourd'hui avec un intérêt croissant de la question et des questions générales touchant à la préhistoire, qu'il s'agisse de l'ancienneté des humanités, des questions d'anthropologie, d'évolution interne et des nouvelles techniques qui apparaissent, nouvelles méthodes de datation. C'est devenu tellement récurrent que nous avons organisé ces deux journées préalables qui, sur les deux ans avant l'édition de cet ouvrage, et que nous avons vu qu'il y avait effectivement matière pour aller solliciter largement un certain nombre de collègues, mais de chercher au-delà des disciplines. Voilà la réponse globale que je fais. C'est une perception globale d'un intérêt pour la préhistoire.
Philippe ?
Oui, c'est ce que dit Jean-Michel est très juste. On a été sensible à ça, sensible à l'actualité aussi autour de la préhistoire, qui est à la fois riche d'un point de vue médiatique, il y a beaucoup d'expositions, c'est un thème relativement porteur. Et en même temps, quand on creuse un peu, on constate qu'il y a peut-être une difficulté de faire valoir la préhistoire comme discipline réelle, qu'elle n'est pas si bien connue que ça, sur le fond. Il y a les très spécialistes, hein, les préhistoriens eux-mêmes, évidemment. Mais au-delà, dans le grand public, il y a encore beaucoup d'interrogations. Et on vit une époque formidable, parce qu'on vit aussi une époque où les technosciences produisent des avancées faramineuses, parfois, que régulièrement, des nouveautés apparaissent sur le champ préhistorique. Et il était temps, je crois, depuis, disons, à peu près un siècle et demi que la préhistoire est inventée, de faire un large bilan et d'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà, c'est ça notre intention.
J'avais une autre dimension qui est non négligeable. Cela faisait un certain temps que, échangeant sur ce sujet assez général avec une diversité d'intervenants, j'avais envie de donner la parole à un certain nombre de personnes et j'avais envie de les écouter pour savoir si ce que nous ressentions de ce mouvement général était une réalité, et vraiment donner la parole de façon réellement interdisciplinaire à un ensemble de collègues.
Alors, vous avez donc livré quelques clés déjà de compréhension de votre ouvrage. C'est un ouvrage qui est assez volumineux. Il y a 4 parties dans l'ouvrage. J'ai compté à peu près 50 contributions, près de 450 pages. C'est donc un ouvrage qui pourrait sembler un petit peu complexe à aborder. Et si c'est possible, est-ce que vous pensez en quelques phrases, comment vous essayeriez de convaincre des personnes qui auraient un petit peu peur en voyant l'ouvrage de l'acheter pour le lire?
Nous avons essayé d'anticiper, mais est-ce qu'on a anticipé au niveau de l'écriture et au niveau de la réception et de la lecture? Je n'en sais rien. Mais nous nous sommes dit, et nous avons quand même de façon assez volontariste demandé à chaque auteur de rester dans un format court, d'utiliser un langage qui soit un langage appréhensible par tous. Nous avons eu un éditeur qui a eu la générosité de proposer 2 illustrations en couleur à chaque ouvrage, ce qui fait que chaque contribution peut se lire de façon aisée et on peut normalement les enchaîner autour de cette thématique. Qu'est-ce qu'il y a d'original aujourd'hui? Quelles seraient les nouveautés? Et vers quoi s'achemine globalement une préhistoire et en même temps la préhistoire partagée aussi avec les disciplines connexes, puisqu'il n'y a pas que des préhistoriens, et c'est ça qui est important.
Oui, alors c'est vrai que pour la structure du texte, en fait, il faut déjà préciser pour le lecteur que c'est relativement simple de s'approprier cet ouvrage. C'est vrai qu'il y a 50 participants, ce qui est un chiffre un peu monstrueux, mais en fait, ils ont un espace limité chacun. C'était un souhait très clair de notre part, donc il faut être concis, aller droit au but. Et d'autre part, évidemment, dans ce type d'ouvrage, on n'est pas nécessairement obligé d'aller de la première à la dernière page, et selon ses centres d'intérêt, eh bien, on peut surveiller plus un article, être attentif davantage à un autre. Voilà. Et en plus, l'architectonique générale de l'ouvrage, avec ses quatre parties sur lesquelles on reviendra, j'imagine, facilite, je crois, la lecture. Donc c'est un ouvrage, je dirais, assez simple dans sa conception, enfin en tout cas on l'espère, et stimulant dans sa lecture surtout.
Alors, stimulant dans sa lecture, il est certainement, mais il peut sembler un petit peu complexe à appréhender, un ouvrage avec 50 participants. Est-ce que vous diriez que c'est un ouvrage qui est quand même pour l'amateur éclairé, l'autodidacte, ou finalement que c'est un ouvrage qui est accessible à tout public?
Alors, tout public, évidemment, ça serait très ambitieux, et c'est jamais tout à fait le cas, même pour un livre qui se prétend tout public. Mais l'amateur éclairé, assurément, oui, puisque de toute façon, même si on est très attentif à donner la parole aux archéologues préhistoriens très spécialisés pour nous faire part de leurs avancées, parfois il y a des textes très très pointus qui sont proposés comme ça, il y a aussi beaucoup de textes qui viennent d'auteurs qui ne sont pas des archéologues préhistoriens et qui abordent la réception de la préhistoire dans leur domaine et spécialité. Donc ça peut être évidemment des gens qui travaillent dans les sciences humaines, mais également des artistes. Il y en a quelques-uns qui sont proposés dans cet ouvrage. Et donc c'est un ouvrage vraiment, je crois qu'il faut insister sur ce point, honnêtement simple de lecture, parce que toujours, même quand il est très précis, dans des formats brefs. Et ça, c'est vraiment un point, je crois, à valoriser.
Il y a deux parties qui ne sont pas rédigées par des archéologues à proprement parler. Elles réservent des surprises, des points de vue différents. Et à ce titre-là, pour un public cultivé et assez large, cet ouvrage peut servir de point d'entrée et même de présentation de la préhistoire aujourd'hui, qui est une discipline quand même méconnue, assez confidentielle malgré tout.
Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, Jean-Michel, sur le fait que la préhistoire est une discipline méconnue, tu es un grand préhistorien français, tu as pensé la préhistoire paléolithique d'une façon différente que d'autres acteurs, et Philippe est un philosophe. Est-ce que vous diriez que la préhistoire actuellement, ou que les travaux en préhistoire, manquent de sciences humaines et sociales? C'est une réflexion que je me fais beaucoup quand je vois une dérive ingénierique de nos recherches.
Alors, bien entendu, Bruno, tu me poses cette question et tu anticipes. Oui, je suis un tenant. Je suis quelqu'un qui aspire à plus de sciences humaines. Alors, pour deux titres, les sciences humaines sont, malgré tout et historiquement, à l'origine et au fondement de cette discipline, avec les sciences naturelles, mais à parts égales. Elles en sont la part qui insuffle du vécu et qui relie cette discipline qui pourrait être une autre des disciplines ou une annexe de la géologie dans les sciences humaines et qui nous concerne aujourd'hui en temps vécu et qui nous interroge tant. Alors ça, c'est le premier niveau de question. Et dans les sciences humaines, il y a aujourd'hui une diversité de regards qui nous enrichit et qui enrichit, quand je dis nous, les archéologues et les préhistoriens. Et il y a encore trop de dichotomies, de singularités et de séparations et de barrières. Cet ouvrage a l'ambition, mais c'est vraiment un souhait, c'est un désir d'ouvrir des portes de communication entre des disciplines qui peuvent nourrir la préhistoire, qui la concernent, mais qui ne sont pas du tout associées à la préhistoire.
Je peux qu'abonder dans le sens de Jean-Michel. Il faut remarquer toujours, on a chacun d'entre nous cette idée à l'esprit, d'ailleurs, que, en fait, l'objet premier de la préhistoire, c'est l'histoire très ancienne des hominines, et puis des préhumains, des humains, etc., jusqu'à cet homme anatomiquement moderne que nous sommes maintenant. Donc, évidemment, c'est cette histoire-là. Alors, ça serait quand même assez paradoxal qu'une science qui a pour objet l'histoire de la très longue durée de l'évolution de l'homme n'est pas à faire aussi avec les sciences humaines. Mais c'est une difficulté parce que, en même temps, on sait très bien que si on se demande en quelque sorte de quoi la préhistoire est-elle le nom, elle est aussi le nom aujourd'hui, on le voit bien avec les activités des préhistoriens, d'une activité qui sait s'entourer de sciences qu'on appellerait dures ou disons empirico-formelles, qui la nourrissent, dont elle a absolument besoin, et qui sont très étrangères, a priori, aux sciences humaines. Il est évident que pour un préhistorien, il faut commencer peut-être par l'étude de la géologie, des sciences naturelles, du climat, et toutes ces données sont fondamentales. Alors évidemment, les sciences humaines, là-bas, qu'est-ce qu'elles ont à faire ? Souvent pas grand-chose, et c'est une des difficultés. Et si on rajoute à cela que ça, c'est une science qui a besoin d'être sur le terrain, alors c'est encore une chose qui est un peu difficile pour les tenants des sciences humaines qui, eux, peuvent être ethnologues, archéologues, mais c'est pas toujours des hommes de terrain, c'est peut-être les hommes de bibliothèque, parfois trop en tout cas. Mais bon, bref, ça peut poser des difficultés. Mais quoi qu'il en soit, dès la fondation de la préhistoire, et ça, vous le savez comme moi, eh bien, il a été question de comprendre en même temps ce que nous sommes devenus et qui nous sommes aujourd'hui. Donc, en fait, évidemment qu'on a besoin de sciences humaines, mais dans une interaction qui oblige, et c'est aussi une volonté qu'on a eue dans cet ouvrage avec Jean-Michel et Boris, qui oblige les spécialistes de sciences humaines de se former quand même à cette discipline qu'est la préhistoire et non pas d'importer leurs concepts ou leurs savoirs qui seraient assez vite inappropriés. Donc c'est vraiment une volonté d'interdisciplinarité. Je sais que c'est un terme un peu dévoyé, très mode, voilà, et puis dans lequel on peut mettre à peu près tout et son contraire. Mais pour nous, ça voulait dire une chose très précise. Ça voulait dire, on a même une partie qui est explicitement consacrée à ça, étudier les interrelations, c'est-à-dire ce que l'un donne et ce que l'autre reçoit, et inversement. Cette partie s'appelle don et contre-don, et on y tient beaucoup, parce qu'on pense là qu'il y a un terrain fructueux d'échange entre spécialistes de préhistoire et puis personnes qui ont compris, qui peuvent comprendre l'intérêt de l'archéologie préhistorique, y compris pour leur propre discipline. Alors ça, c'est vraiment important.
Toutefois, l'exercice me semble très complexe actuellement, en tout cas en fonction de ce qu'on peut vivre dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et particulièrement, j'aimerais avoir ton avis sur quel est l'apport de la philosophie, puisque tu es professeur de philosophie, aux études préhistoriques. Moi, j'ai eu ce sentiment qu'on en avait besoin d'avoir ces contributions des philosophes pour nous aider à réfléchir sur les concepts, sur voilà, des concepts qu'on utilise très largement, mais sans cette profondeur de connaissances qu'on peut avoir en sciences humaines et sociales. Et pourtant, je trouve que l'exercice est très compliqué de vous voir arriver dans notre sphère d'intérêt scientifique.
L'exercice est compliqué, il n'est pas gagné, mais en même temps, ce qui est tout à fait passionnant, c'est une chose dont je me suis aperçu depuis quelques années maintenant, c'est que dès la fondation des sciences préhistoriques, avec les premiers noms célèbres de la préhistoire, des gens comme Cartaillac, Breuil particulièrement, c'est à eux que je pense, dès que la préhistoire s'est inventée, elle a fait appel à toute une série d'autres spécialités, puisque aussi au milieu du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle, en fait, les savoirs n'étaient pas si cloisonnés que cela. Ils sont devenus par nécessité ultra spécialisés, donc chacun est dans sa branche, sans s'apercevoir en fait de l'importance des échanges. Mais je me souviens toujours avec émotion d'un texte de Cartaillac et Breuil lorsqu'il publie la première monographie sur Altamira, et il conclut leur ouvrage avec cette idée que s'ouvre ici un vaste champ, et ils espèrent que, disent-ils, les ethnographes, comme ils les appellent à l'époque, les philosophes et les artistes, sauront s'approprier ce domaine-là. Alors, est-ce que ça a eu lieu ? Je pense pas encore, et en tout cas pas suffisamment. Je vois bien la réticence, y compris de mes collègues philosophes qui ne sont pas très savants en termes de préhistoire. Mais c'est pour ça, je reviens sur ce point, il était essentiel pour nous d'organiser le plus d'échanges interdisciplinaires possible, avec l'idée que nous devons apprendre la discipline de l'autre. C'est ça le critère de l'interdisciplinarité. S'il n'y a pas d'apprentissage de la science de l'autre, il n'y a pas d'échange non plus. Il y a des croisements de termes qui restent vains. Et on tient beaucoup à ça.
Je dirais que ce n'est pas effectivement évident et que la partie n'est pas gagnée. Mais je suis toujours surpris parce que quand j'écoute sur des sujets qui nous sont familiers, tous les deux, nous partageons un consensus au sujet, par exemple, des paléolithiques, des humanités qui les ont associées, des industries, des cultures, etc. Lorsque j'écoute Philippe ou que j'interroge Philippe, je suis surpris. J'entends quelqu'un qui me répond dans ma langue et pas dans ce que j'imaginais de la philosophie. Et c'est là que nous avons aussi nos représentations et qu'une grande partie de nos cloisons sont celles-ci. Et ça me rappelle de façon très, très publique une image qui va certainement te parler, qui est qu'en 1920, Marcelin Boule avait aussi... Dans ses élèves, pas simplement des paléontologues, pas simplement des naturalistes, pas simplement des... Il y avait Thiers de Chardin, par exemple, qui est devenu, alors qu'il apprenait la paléontologie, qui est quand même devenu un philosophe. On a encore intérêt toujours à essayer de nous mêler plus que c'est possible. Et c'est quelquefois peut-être simple à partir du moment où on essaie de partager non pas des interprétations ou des points de vue abstraits et distanciés, mais quand on essaie de se rejoindre à partir des faits de terrain.
Oui, eh bien, on va espérer que ça va fonctionner et que dans tous les cas, les lecteurs de l'ouvrage seront convaincus de l'immense intérêt à voir ces communautés académiques travailler ensemble, échanger. En tout cas, personnellement, je suis convaincu, mais je pense que l'exercice est vraiment compliqué à faire. Mais on essaie, au moins, il y a l'envie de le faire. Le titre de l'ouvrage, c'est donc « Préhistoire, nouvelles frontières ». Et donc, on en a peut-être déjà un petit peu parlé. Le titre, il peut paraître surprenant parce qu'on se dit la préhistoire, c'est obligatoirement contraint chronologiquement, c'est contraint par la nature des vestiges archéologiques que sont susceptibles de nous livrer les terrains de fouilles. Alors, ces nouvelles frontières, est-ce qu'elles sont que liées justement à ces champs disciplinaires qui se rencontrent à travers l'ouvrage, à la multiplicité des acteurs à qui on a demandé d'écrire simplement sur des thématiques qui leur plaisaient et qui correspondaient à ce qu'ils avaient présenté dans les réunions qui ont précédé cet ouvrage, ou est-ce qu'il y a derrière ça un autre message ?
Alors, en premier niveau de réponse, c'est que effectivement, après réflexion, ce concept, cette idée, cette image de frontière est apparue, et parce qu'elle nous permettait d'illustrer à quel point les frontières classique, déterminée de la préhistoire et inscrite dans les bilans académiques largement partagés, et pouvait avoir bougé, pas simplement géographiquement, pas simplement au niveau des chronologies, mais aussi dans d'autres domaines, entre les disciplines. Et à ce titre-là, nous avons identifié qu'il y avait des frontières qui seraient internes à la discipline, d'autres qui venaient de l'extérieur, et qu'en fin de compte, il y avait des attraits, des attirances venant non pas des acteurs de la préhistoire qui sont en nombre limité, mais justement des autres disciplines auxquelles on fait appel pour développer, dater, étudier, analyser, caractériser de façon de plus en plus pointue un certain nombre de domaines liés au contexte des objets, mais en même temps, venant aussi du large public, d'auteurs qui s'intéressent à l'archéologie, qui sont inspirés simplement par la préhistoire. Voilà ce premier niveau. Donc ce concept de frontière, on l'a travaillé, on l'a nourri et il nous a permis de structurer l'ouvrage. Voilà ce que l'archéologue répond.
Eh bien, le philosophe ne va pas contredire l'archéologue, mais il va juste rappeler que frontière, ça ne veut pas dire borne. Frontière, c'est un lieu de passage. aussi. Hein. La frontière franco-allemande fait que les Allemands viennent en France, les Français en Allemagne, et les exemples se multiplient à l'infini. Donc les nouvelles frontières, c'est aussi des zones de passage qu'on essaye d'identifier. Et donc, ce n'est pas seulement des résistances qui bloqueraient l'avancée de la discipline, mais c'est justement ces domaines de passage auxquels on a été attentif. Et puis, elles sont nouvelles aussi parce que, en fait, l'idée de l'ouvrage, c'était quand même de se dire que il y a un moment donné, dans l'avancée de l'histoire de la discipline, il faut faire comme un état des lieux, en quelque sorte. Et ça, c'est un état des lieux de ce qui se passe dans l'activité très riche de l'archéologie préhistorique dans ce début du XXIe siècle, déjà fort avancé, puisqu'on est déjà en 2023, disons, dans ce premier quart qui s'achève maintenant, où on en est à la fois des percées scientifiques issues de la technoscience, des rapports aux sciences humaines, de la réception muséographique de la préhistoire. On ne peut plus la montrer comme elle se montrait naguère, évidemment. Et donc, c'est toutes ces frontières qui sont des lieux de passage, de transition, et donc d'interaction, en quelque sorte, qui nous intéressaient. Les explorer nous permettait de configurer en quelque sorte notre concept de préhistoire avec ce paradoxe, mais on y reviendra sûrement, que c'est un terme largement ambigu, largement bloquant. Donc ça nous a amusés, intéressés, passionnés de pouvoir en même temps créer ces lieux d'ouverture et en reprenant et contestant ce beau et vieux concept finalement de préhistoire.
Oui, je ne sais pas si on y reviendra, mais vous y reviendrez peut-être, puisque moi, dans ma modeste contribution, j'ai écrit, je crois que je tenais à ce concept de préhistoire, mais on y reviendra sûrement. Alors, la première partie de l'ouvrage, elle regroupe des contributions, globalement, j'ai résumé ça comme ça, sur le temps en préhistoire. Et le temps en préhistoire, c'est vraiment un paramètre fondamental où cohabitent plusieurs concepts, plusieurs chronologies même. Certaines sont absolues, très analytiques, d'autres sont complètement relatives. Et alors là, j'aimerais vraiment avoir votre idée sur, justement, par rapport à ce titre nouvelle frontière. Il y a, selon moi, une nouvelle frontière là, très très forte à investir sur qu'est-ce que c'est que le temps en préhistoire, qu'est-ce que ça signifie. Les préhistoriens qui vont avoir une tendance à être très analytiques dans leur dimension vont accorder une valeur énorme à une datation absolue donnée par une méthode radio-nucléaire. Ceux qui seront sur le terrain beaucoup plus attachés aux vestiges laissés par nos ancêtres vont accorder plus d'importance à la chronostratigraphie, à l'évolution de ces objets. Je trouve presque que le temps, il est très fantasmé quelque part en préhistoire. On a l'impression de le maîtriser, mais il nous échappe totalement. Et alors là, j'aimerais vraiment avoir votre avis à tous les deux sur qu'est-ce qu'on peut faire autour du temps dans la préhistoire, en préhistoire, par rapport à cette idée qu'il y a des choses nouvelles à inventer en échangeant différemment.
Le temps est porteur et notamment en préhistoire, parce que ça devient un outil qui nous permet de situer des événements du passé par rapport à nous, est un outil paradoxal. Il est paradoxal, et nous essayons de le montrer, plusieurs auteurs, plusieurs participants à cet ouvrage, en analysant quelles sont ses caractéristiques. Alors bien sûr, il y a toutes ces dimensions et ces critères du temps calculé que tu viens d'évoquer, qui font que selon la période dans laquelle nous sommes, se situent les objets d'études, il faut avoir des spécialistes en physique qui permettent de documenter ce temps. Mais pour le grand public, ce temps-là reste malgré tout une abstraction. Qu'est-ce que c'est que situer un événement il y a 500 000 ans ou 50 000 ans? Comment font-ils la différence? Mais ils ont le même problème quand on parle d'une période du Crétacé supérieur qui se situe il y a 125 millions d'années. Donc ces échelles de temps, ce sont des outils, ce sont des éléments d'abstraction qui, sur une grille, nous permettent de se situer. Ce temps-là, finalement, on s'y habitue les uns et les autres. On comprend que c'est une abstraction, des unités de mesure, mais avec des systèmes de mesure qui changent assez souvent. Et puis, nous avons découvert, on se rend compte que quand on veut insérer ces disciplines préhistoriques dans les sciences humaines, cette notion-là de temps, elle est effectivement un échec. Elle ne permet pas de nourrir. Ce qui devrait nourrir les sciences humaines, c'est un temps qui est plutôt vécu. Et à ce moment-là, dirait Bergson, c'est la notion de durée. Et comment appréhender la durée, qui fait que dans un campement que l'on étudie, il s'est développé pendant un certain temps des phénomènes qu'il est important d'appréhender. Quelle est la durée qu'ont vécu telles humanités pour pouvoir évoluer, s'adapter et autres. Et là, on est effectivement, il nous manque la partie vécue, mais en nous interrogeant là-dessus, on voit peu à peu qu'il y a des outils qui nous permettent de documenter le temps et la durée, fût-ce il y a des périodes d'il y a 30 millions d'années, il y a des très très longues périodes éloignées dans le temps, qui sont dans une abstraction absolue, mais dans lesquelles on peut ajouter des événements, des pièces techniques. On dit, ah, mais cet événement a précédé l'autre. Et on construit peu à peu des temps relatifs, mais on est toujours dans un temps qui reste paradoxal parce qu'il y a d'une part ce qu'on devrait vivre dans l'intérieur, de l'intérieur qui n'est pas accessible. Et il y a juste le temps que les archéologues et les physiciens construisent et qu'on plaque sur les événements. D'où, effectivement, ce grand malaise. Il faudra qu'on arrive à faire des synthèses. Dans cet ouvrage, on a laissé la place aux travaux de Ségolène van der Velde, qui a réussi à dater ces minces lamines de calcite que l'on observe sur les parois des grottes ornées et où s'intercalent à l'intérieur les épisodes des sites occupés qui se marquent par des niveaux de fumée et qui montrent effectivement une couche plus sombre. Donc, et on arrive à les dater. Et là, on a créé une espèce d'artefact nouveau, mais de nouvel outil qui est équivalent à celui de la dendrochronologie. On lit les couches de dépôts calcitiques sur les parois des grottes année après année et dans un certain nombre de cas, quand on parle de la transition par exemple entre le paléolithique supérieur et le paléolithique moyen, on a dit ah ben entre 45 et 46 000 ans, notre ami est fouillant le site de la grotte Mandrin a pu obtenir des éléments de datation un petit peu plus précis et a avancé sur une possible chronologie d'interface, de contact entre groupes néandertaliens et homo sapiens. Donc voilà les exemples de la manière dont le temps peut être à nouveau contraint, traité dans ses rythmes et par les archéologues. Nous aurons certainement d'autres avancées aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas, par exemple, du temps paléogénomique, qui est celui de l'évolution des génomes, mais qui devrait intervenir aussi et qui a une autre échelle. Bref, je suis en train de montrer une immense diversité de ces notions de temps. C'est celle, entre autres, qui nous préoccupe et dont, dans ce chapitre-là, nous avons pas fait le tour non plus, tellement il est immense.
Philippe, est-ce que tu ne crois pas que les préhistoriens, ils sont trop impressionnés quelque part par toutes les techniques, les méthodologies analytiques qui nous permettent de caler ce temps, de lui donner une valeur numérique, métrique comparable, distinguable statistiquement.
Moi, je crois que là, les préhistoriens font leur travail, en quelque sorte, et il est très précieux. Ils ont à faire ça, et je dirais que c'est plutôt, à l'inverse, les non-préhistoriens, en quelque sorte, qui doivent produire des outils conceptuels leur permettant de prendre la mesure d'un temps de très longue durée. Et ça, c'est une chose que les sciences humaines ne connaissent pas, à vrai dire. Les historiens savent bien que l'école des annales, dans la première moitié du XXe siècle, avait révolutionné la discipline en inventant la longue durée. Mais cette longue durée, en fait, c'est 1000 ans. C'est-à-dire une marge d'erreur pour un préhistorien, et encore, s'il est très précis, probablement. Je crois à l'inverse que, précisément, le travail qu'il y a à faire dans les sciences humaines par rapport aux archéologues et à l'archéologie préhistorique, c'est d'arriver à formuler les concepts qui permettent de prendre en compte et au sérieux la très longue durée. Par exemple, je sais que, quant à moi, je suis attentif, tu l'as rappelé, Bruno, je suis aussi professeur à l'Université de Poitiers, en l'occurrence, et donc je m'arrange pour tous les ans, depuis plusieurs années, faire des cours sur ces questions. Et alors, une des premières choses que je fais, c'est d'essayer de faire comprendre à mes étudiants que précisément, il y a quelque chose avant l'Antiquité. Ça fait légitimement sourire parce que nous le savons bien, mais en fait, la plupart du temps, nous ne le savons que d'un savoir abstrait, puisque précisément, dès qu'on sort de ces repères-là, en fait, on n'est plus du tout dans des échelles mesurables aisément, on n'est pas du tout dans des repères générationnels non plus. Et donc, très vite, on voit bien que, comme disait Jean-Michel, 10 000, 100 000, 500 000, en fait, c'est pareil, c'est un chiffre abstrait. Et donc, je dirais que c'est une façon quasi non bergsonienne, pour le coup, même si la durée est un concept absolument fondamental, ce qu'il faut à un moment, c'est rendre figurable et spatialiser le temps. Si, par exemple, on prend une échelle de mesure qui représente quelque chose comme une durée de, disons, 40 000 ans, par exemple, l'âge de l'art figuratif en Europe occidentale, eh bien, on comprend que cette échelle de mesure va être complètement démesurée par rapport à ce qui est antérieur à l'Antiquité et va ne représenter l'Antiquité qu'à son extrême marge. Et alors là, on se demandera, mais est-il si légitime de laisser tout ce temps derrière nous et de ne pas même savoir quoi en faire, hein ? Donc, il faut absolument que les non-préhistoriens prennent la mesure, non pas de la longue durée, ça, les historiens nous ont appris à le faire, et tant mieux, mais de la très longue durée. Et en fait, travailler là-dessus, ça, c'est très important. Et après, comme dit Jean-Michel, il faut être attentif au fait qu'il y a des durées différentes et qui se superposent et qui se chevauchent en quelque sorte aussi.
Et comme il doit y avoir des temporalités différentes quand on étudie la préhistoire, quelque part, et quand on veut essayer de reparler de la façon dont les groupes humains eux-mêmes vivaient à ces époques-là. Nous sommes, nous, dans un pays occidental tempéré, mais il y a 20 000 ans, dans le sud-ouest de la France, combien y avait-il de saisons ?
Oui,
exactement. Une ou deux ? Et comment voilà. Se représenter ça et comment discuter de cela.
Oui, oui, oui. On arrive dans le meilleur des cas, dans certains sites, à percevoir des saisons, des lamines, des lentilles de glace, etc. Pour dire il y a eu de multiples couches. On a toujours du mal à identifier les saisons, puisque on est encore avec ces appréhensions des durées paradoxales. Vous avez un archéozoologue qui va dire « Ah, les rennes, ils sont chassés ». Effectivement, il n'y a pas de problème. Ils sont tous chassés à l'automne, c'est très bien, etc. Nous, où est la couche qui s'appelle l'automne dans le site archéologique ? Jamais, on le saura. On récupère tout ça. Mais en même temps, ces différents degrés, notions de temps, notions de durée, il est important aujourd'hui de pouvoir les prendre en compte. L'étude des rythmes, etc. On dit, on ne sait jamais effectivement à la réflexion quand est-ce que les sites ont été occupés. Un jour, je me suis pris à réfléchir. J'ai dit, mais voyons, est-ce que je sais quand Lascaux a été occupé ? Non, je ne sais pas. Chauvet ? Puis finalement, je me suis dit, mais c'est bourré de squelettes d'ours et de restes d'Ursus Péléus sur le sol. Si ces humains, si des humains de l'Orignacien ont peint Chauvet, logiquement, ils sont tous rentrés à la belle saison. Et là, je me suis dit, voilà comment on met de la nuance dans la durée. Et c'est avec une grande subtilité et quelquefois sans disposer d'une méthode de datation, mais en associant effectivement tout ce que nous avons, disciplines confondues, à apporter pour nourrir un fait, pour nourrir une réflexion. Je ne sais pas si cet exemple...
Si, c'est bien, ça me plaît beaucoup. Souvent, on se pose la question, effectivement, et on va y venir avec la seconde partie de l'ouvrage, par rapport à un nouveau champ disciplinaire dont vous avez parlé tout à l'heure, dont tu as parlé, Jean-Michel, sur l'ADN ancien. Mais là, j'avais une autre question pour Philippe, qui était, finalement, comment on devrait essayer de mieux travailler ensemble pour appréhender ce qui nous manque dans le temps, c'est-à-dire ce qui est absent. Dans les archives archéologiques, etc. Jean-Michel l'a dit, on a des couches, ce sont des palimpsestes d'un homme d'occupation qu'on ignore. Nos collègues nous disent, ok, tous vos animaux, ils ont été plus ou moins chassés à l'automne, mais ça représente quoi ? 500 générations, 100 générations, 20 ans, on ne sait pas. Et on sait aussi qu'entre ces périodes d'occupation, de fréquentation des gisements, il nous manque des choses. Et on ne raisonne jamais sur ce qui nous manque. Alors que ce qui nous manque apporte une information énorme sur le temps en préhistoire.
Mais comment faire pour mieux travailler ensemble? Ça, c'est vraiment une question essentielle. Mais c'est de nouveau, on y revient à cette question de l'interdisciplinarité, dont je pense, et je le redis, qu'elle ne fonctionne bien que si on accepte d'apprendre la discipline de l'autre. Et toute la difficulté est là, en fait. Tant que, en sciences humaines ou en philosophie plus particulièrement, puisque ça me concerne davantage, on ne sera pas capable d'apprendre de l'archéologie préhistorique, on n'échangera pas. Donc le travail, il est là, je crois. Parce que ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que, par exemple, plus j'apprends, moi, de l'archéologie préhistorique et des archéologues et des préhistoriens que je rencontre, ce qui me réjouit beaucoup à chaque fois, je me rends compte très clairement qu'ils n'attendent pas après les philosophes, ils n'en ont absolument pas besoin, d'aucune façon d'ailleurs. Ce serait même naïf de croire que les philosophes leur apporteraient des concepts, puisque les préhistoriens, eh bien, ils pensent et ils disposent de leur propre épistémologie, et très bien. Donc en fait, ils n'ont pas besoin des philosophes. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, que les philosophes ont besoin des préhistoriens, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ceux qui ont tenter de prendre la mesure d'un temps extrêmement long. Parce que ça, c'est ça qui nous manque en philosophie, et pas seulement en philosophie, dans les sciences humaines. Donc je pense qu'il y a de l'interaction possible, à condition d'apprendre eh bien, la discipline de l'autre, mais pas précisément dans un rapport de surplomb qui ferait que le philosophe proposerait des concepts aux préhistoriens qui, lui, gentiment dirait merci et les appliquerait. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, évidemment.
Toutefois, je pense que les préhistoriens ont beaucoup besoin des philosophes. En tout cas, moi, j'en suis convaincu parce que je pense que les préhistoriens utilisent beaucoup de concepts sans forcément avoir réfléchi à la définition de ces concepts et les acceptent assez facilement. On utilise tous les mêmes mots, mais on n'y met pas derrière les mêmes définitions. Et pourtant, ce sont des concepts qui ont une très, très forte valeur par rapport à la compréhension qu'on peut avoir des groupes humains du passé.
Oui, c'est juste, mais ça réduit un peu le rôle de la philosophie à quelque chose comme une épistémologie critique. Or,
pas vraiment, mais si tu veux.
je pense que les archéologues préhistoriens, enfin plusieurs d'entre vous, produisaient une très bonne épistémologie. Moi, je suis frappé de ça. Je dirais que plus je lis les préhistoriens, plus je m'aperçois que ce ne sont pas seulement des hommes ou des femmes de terrain. Les articles de ce livre, d'ailleurs, le montrent. Les articles signés des préhistoriens sont vraiment remarquables. Ils n'ont rien à envier, point de vue critique, pour dire comme ça, aux philosophes. Ça n'empêche pas que les philosophes peuvent avoir un regard un peu décalé, extérieur, peut-être apporter des singularités, un autre type de réflexion. Mais je pense quand même que l'ambition doit être déplacée, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'interaction, je dirais, apprenons de l'autre, et après, nous avons un terrain de discussion. Mais tant que, si on contraignait le philosophe, par exemple, à n'avoir qu'un rapport critique par rapport à ce que font les préhistoriens, je pense qu'il leur serait de peu de profit. Et de fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de philosophie de la préhistoire. Il y a quelques philosophes, il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu nombreux, et ceci quand même depuis le XXe siècle. Ils sont très peu nombreux. Donc c'est que les préhistoriens s'en passent bien, finalement.
Jean-Michel, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ?
Je suis aussi de ceux qui pensent que nous avons besoin d'interagir et de mieux intégrer nos disciplines pour effectivement avancer ensemble pour un certain nombre de raisons. Et je suis de ceux qui aiment se nourrir, ne serait-ce que des travaux, oui, bien sûr, mais même du regard des philosophes qui nous permet simplement de nous décaler et de sortir de ce que nous avons, de ce que nous imposent les paradigmes qui assaillent les archéologues du temps moment, du temps présent dans leur société. Et nous sommes pris par ça, même si nous ne nous en rendons pas compte. Quand on parle du temps long, justement, c'est précisément parce qu'il y a une question forte du temps long que soulèvent les philosophes, les historiens de l'art et autres. Le temps long, nous nous sommes habitués à le manipuler. Nous en parlons, mais nous ne le connaissons pas plus que cela. Quel est l'effet, effectivement, du temps long? Quel est l'effet philosophique du temps long sur la perception du temps? Nous sommes toujours pris par
le temps vécu actuel, celui que nous vivons dans nos vies, mais nous n'avons du mal à savoir ce que c'est que l'évolution sur le temps long d'un groupe social, d'une culture. Et c'est là que nous sommes en bout de méthode et qu'il faudrait que nous nous retrouvions.
Je ne sais pas si beaucoup de personnes réalisent que finalement la plus longue tradition culturelle qu'a connue une partie de l'Europe de l'Ouest, c'est la représentation d'animaux sur les grottes ornées.
Et oui, quelque chose comme 15 000 ans de stabilité avec pas d'autres besoin de recourir à d'autres symboles. Ça nous pose un certain nombre de questions, pas simplement sur l'art et sur la figuration, mais comment fonctionnait la pensée et le langage de ces groupes.
Et pourquoi autant de temps? Relativement un temps raccourci de ce qui se passe après, où on imagine qu'il y a plus de complexité, plus d'échanges, et où théoriquement, les traditions devraient durer plus longtemps.
Oui, en expérience comparable, nous n'avons que des temps courts.
Très courts.
Très courts.
Philippe?
Oui, absolument d'accord. Ça, c'est une question décisive de la stabilité des populations paléolithiques récentes. C'est fascinant. Et c'est un objet qu'il faut absolument considérer pour comprendre ce que nous sommes devenus. Moi, ça me fascine toujours de me rappeler effectivement que l'art du paléolithique récent, Jean-Michel parlait de 15 000, mais peut-être on peut aller bien au-delà encore, puisque finalement, si Chauvet est à 37 000, on est à 27 000 ans, 25 000 ans, disons, c'est faramineux. C'est-à-dire, quand on dit 25 000 ans, on comprend que nous ne comprenons pas. On comprend que nous ne comprenons pas, parce que justement, ça ne veut rien dire, 25 000 ans. Ce n'est pas mesurable. Et surtout, ça nous fait gommer, si on s'en tient là, la diversité des cultures. Parce que quand même, c'est pas 25 millions d'orignaciens.
Exact.
Il faut pouvoir les mesurer, pouvoir les apprécier, voir les micro-changements, les micro-ruptures, et elles ont lieu. Ces moments d'innovation, dirait Jean-Michel à propos de d'autres manifestations, ces moments d'innovation technologique, conceptuelle, symbolique aussi, qui font des ruptures. Et être capable de les repérer et de les assigner en leur donnant sens, ça, c'est un travail magnifique. Alors, moi, c'est aussi pour ça que ce travail des préhistoriens me fascine et me passionne, parce que je pense que pouvoir comprendre ça, c'est en même temps acquérir un regard précisément sur les formes symboliques structurelles qui fixent des stabilités temporelles très longues et qui permettent de penser ce qu'on peut appeler des ontologies quasiment, c'est-à-dire des modes d'être au monde qui se fixent pendant des millénaires, qui ne sont plus les nôtres, parce qu'évidemment, on parle de 25 000 ans, mais Bruno, tu l'as rappelé tout à l'heure, ce sont aussi des individus qui vivent dans un âge glaciaire, ce sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades, c'est-à-dire, c'est vraiment tout autre que nous, et en même temps, ce sont des sapiens. Donc, il faut pouvoir penser ces différences. Et là, nous commençons un petit peu à deviner ce que nous sommes devenus.
Alors, la seconde partie, elle s'intitule « Percée en cours ». Et étant donné qu'il y a un chapitre, enfin, il y a une contribution qui porte sur cette nouvelle discipline qui est arrivée dans les sciences préhistoriques, je pense naturellement à l'ADN ancien. Discipline qui a été nobélisée à travers son plus grand chercheur, enfin son promoteur et celui qui a eu le plus de succès, bien sûr, le professeur Svante Paabo du Max Planck Institute à Leipzig. Là, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la façon dont vous percevez ce nouveau champ disciplinaire qui a complètement bouleversé nos connaissances, ne serait-ce qu'à travers l'anthropologie biologique, des aspects concernant l'histoire du peuplement, jusqu'à deux travaux assez récemment publiés, un qui doit nous interpeller, en tout cas qui interpelle toutes les personnes qui ont fait du terrain sur la proximité de restes humains trouvés dans un gisement du sud de la Sibérie, Chagirskaya pour ne pas le nommer, où on a le grand-père et la petite-fille. Et alors là, on se dit, mais comment on doit interpréter ce que nous trouvons? Et naturellement, l'autre aspect, c'est ce que ça nous apprend des relations qui ont pu être celles de groupes humains du passé auxquels on attribuait beaucoup de différences biologiques et différences qui à la fois s'estompent ou pas. Alors, je ne sais pas si Philippe ou Jean-Michel qui pour moi, c'est une révolution, mais c'est une révolution mal intégrée, quelque part, pour le moment. Oui, j'ai peut-être tort de dire ça. En tout cas, mal intégrée par les préhistoriens qui s'occupent du comportement.
Ah, voilà. Donc, je ne peux pas te reprendre, mais pour l'instant, effectivement, parce que ça évolue vite quand même, les résultats des apports de l'ADN ancien et de son éruption, et avec les différents chapitres que cela ouvre. Alors, le premier, et bien entendu, je te rejoins, c'est-à-dire que cette immense durée dans laquelle on n'arrive pas à percevoir où elle se situe, et où jusqu'à présent on est limité par la précision des méthodes de datation. Ça, c'est un premier aspect. On rentre à l'échelle de la variation individuelle et on rentre dans l'échelle, enfin, générationnelle. On est dans vraiment du vécu, puisqu'on peut situer un individu par rapport à sa parenté biologique proche ou sa filiation. Et quand on a plusieurs individus, on peut commencer à avoir, et on a un certain nombre de publications depuis 5 ans, où on voit des groupes, des familles, des assemblages. Et là, c'est nouveau. On a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur les relations interindividuelles. Donc, sur les relations interspécifiques, mais interindividuelles, qu'est-ce que c'est? Et ça, ce n'est pas encore exploité. C'est très récent. Et je pense que c'est pour ça, Bruno, qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une intégration immédiate de la part des archéologues. Mais sur le plan des études de comportement, tu le disais à juste titre, il va falloir que l'on exploite cela. Ça veut dire que quand on a des traditions, des générations avec des stabilités dans la manière de fabriquer, de produire telle lame, de produire tel racloir, de se servir et de fonctionner, faire fonctionner certains objets, d'utiliser un objet de parure avec soi, on va, en percevant les variations qu'il y a entre les groupes, savoir ce qui se passe. Dans d'autres cas, on va se dire « Ah, mais enfin, on a une famille avec une parenté biologique qui est locale, mais là, on a quelque chose qui est allocentré. Il y a des individus dans le groupe qui viennent d'ailleurs. » Et on commence peut-être à ouvrir sur quelque chose qui est une parenté qui est autre, qui n'est pas sédentaire. On va chercher effectivement des individus, des femmes, des hommes qui s'apparient venant de différents groupes. On va voir le mouvement dans les nappes de population. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau, qui nous change effectivement non pas de la fixité, parce que c'est nous qui mettions de la fixité, parce qu'on n'avait pas d'informations, on a besoin de se nourrir avec des faits scientifiques. Et là, on a des faits scientifiques particulièrement forts qui touchent à la biologie des individus et qui nous disent, là, ça, on va le prendre en compte. Ce qui fait que avant, quand dans un groupe, on a, par exemple, et là, je tiens à prendre un exemple, on a un groupe du Paléolithique supérieur qui vit à 25 000 ans dans un contexte extrêmement froid du dernier maximum glaciaire, et on voit que ces individus ont de la parure, qu'ils ont pris pour faire de la parure des dents sur des animaux, comme par exemple des rennes ou des cerfs, et on a des craches de rennes ou de cerfs qui sont portés, etc. Et quand on les regarde, on voit qu'on a des populations d'objets très usés ou d'objets très frais. Quel est l'héritage dans ce groupe-là? D'où ça vient? Il y a donc des grands-parents qui transmettent à leurs enfants des éléments. On avait déjà perçu cela lorsqu'on étudiait la parure, qui est associée à des très jeunes enfants. Et on voyait que les adultes avaient donné, effectivement. Donc là, on rentre enfin dans le fonctionnement réel des groupes, on rentre dans la vie, on rentre dans sa dimension vécue, et on a la durée qui commence à devenir, à l'échelle de l'individu, de la génération ou de 2 ou 3 générations. Ça, c'est une révolution dont nous n'avons pas encore assumé tout ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Et là, pour le coup, conceptuellement, il faut vraiment se poser et voilà, c'est première réponse, mais c'est fascinant.
Fascinant. Philippe ?
Oui, j'abonderai dans le sens de Jean-Michel, c'est-à-dire que, en fait, une des paradoxes de cette révolution en cours, qui je crois en est une vraiment, c'est qu'à la fois on pourrait croire que c'est un développement technoscientifique extrêmement important et qui requiert des compétences que peu de gens ont. La paléogénomique, c'est quand même assez complexe, moins qu'on puisse dire. Mais les conséquences que ça a, alors, du coup, obligent plus que jamais les préhistoriens à travailler aussi avec les spécialistes de sciences humaines. Parce que les logiques de mobilité, de géographie, de parentalité, etc., eh bien, ce sont des questions que, justement, les sciences humaines ne cessent d'aborder depuis très, très longtemps. Donc là, en fait, c'est une opportunité magnifique, cette avancée en paléogénomique, parce qu'à la fois, on a une hyperspécialisation avec un renouvellement très, très profond des connaissances scientifiques, et en même temps, une ouverture absolument nécessaire aux sciences humaines. Et je pense là que les anthropologues ont beaucoup, beaucoup de travail avec les archéologues. Et ça, c'est fabuleux de comprendre ça.
Alors, le lien entre cette partie-là et la troisième partie qui s'appelle la préhistoire, don et contre-don, je vais revenir sur cet aspect paléogénomique où finalement les résultats de la paléogénomique nous ont montré qu'en tout cas à l'échelle de l'Europe, de l'Eurasie, il y a eu des introgressions génétiques de populations humaines qu'on va appeler néandertaliennes avec celles qui représentent des populations ancestrales à certains humains. À certains groupes humains vivant actuellement sur le même territoire. Et un peu paradoxalement pour moi, alors que l'existence de ces introgressions génétiques ne sont plus contestées par personne, on a reconstruit des ruptures spécifiques finalement entre ces populations humaines. Et moi, j'aimerais avoir l'avis du philosophe sur cette question-là, où on devrait au contraire se dire « mais tout ce monde fait partie de la même espèce » et au contraire, c'est l'inverse qui se produit.
C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet d'être au clair avec la mobilité des gens et l'évolution mobile. C'est-à-dire l'occupation. La préhistoire, c'est une science qui s'intéresse à la temporalité longue, mais elle ne veut pas être dissociée, cette temporalité longue, d'une occupation géographique des espaces. Et en fait, la paléogénomique, je crois qu'elle va rendre de plus en plus clairvoyant sur ces questions-là. C'est-à-dire, le temps, ce n'est pas que du temps, c'est aussi de l'espace et de l'occupation de l'espace. Et ces mouvements de population eh bien, nous rappellent à cette idée forte. Je ne sais pas ce que l'on pense, Jean-Michel.
Je suis assez d'accord que... Mais on est à un moment où il est peut-être difficile d'anticiper. Mais je suis aussi de ceux et qui voient... les effets de la paléogénomique dans le mouvement des nappes de peuplement. Et qu'à ce titre-là, cette idée un peu archaïque de nappes de peuplement nous montre effectivement qu'il n'y a pas forcément des nappes, mais qu'il y a peut-être des mosaïques qui se côtoient et qui se tuilent en même temps. Donc, c'est quelque chose d'un système en écaille qui recouvre, effectivement, et qui est quelque chose de très, très, très complexe, bien plus complexe que les idées simplistes que nous avions.
Tout à fait. En tout cas, c'est ce que ça c'est en train de nous dire. Mais c'est à la fois passionnant et ça fait un petit peu peur parce qu'on se demande comment on va réussir à s'en sortir avec ça.
On est un peu, je crois, et enfin, c'est moi qui te pose la question, du coup, et on a un peu l'impression qu'en ce moment, plus il y a d'études et plus on voit apparaître une complexité et des problèmes.
Oui, tout à fait. En tout cas, ça nous interroge, mais à plusieurs niveaux, y compris au niveau que, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce qui est quelque chose qui n'est toujours pas sorti dans la connaissance publique, que ce n'est pas forcément les artisans qui ont fait Chauvet, qui sont les ancêtres des populations qui vont faire Lascaux et qui sont, elles, beaucoup plus proches de nous au niveau bien ancestral voilà. Que les premiers qui ont disparu, ouais. Comme d'autres. Ouais. Concept assez compliqué,
mais
à manipuler, on va dire.
Oui, mais qui, quand même, ne doit pas nous laisser sans intérêt. Au contraire. Si on pouvait aujourd'hui, donc rester sur cet exemple que tu sors, s'il était possible de mieux caractériser les origines des artistes de Chauvet, nous serions, moi en tout cas, extrêmement heureux parce que cet art de Chauvet est singulier par rapport à l'autre art postérieur du paléolithique récent.
Alors ça me permet de faire une transition avec cette troisième partie, donc... préhistoire, don et contre-don, et de parler de l'art, puisque pour moi, cette troisième partie, je m'étais dit, si je devais ressortir de grandes réflexions, c'est une troisième partie qui invite à réfléchir sur ce qu'est être un être humain, et qui comporte aussi beaucoup de contributions sur l'art pariétal. Alors, peut-être d'abord pour Philippe, parce que c'est peut-être plus intéressant que Philippe réponde avant toi, Jean-Michel. Et je sais que c'est un sujet qui vous passionne tous les deux. Finalement, est-ce que, sur la base de ce qui a été écrit sur l'art pariétal dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Boris Valentin, est-ce que les lecteurs vont pouvoir trouver une réponse sur la question pourquoi l'art pariétal, dans une toute petite partie de ce territoire eurasiatique.
Si le lecteur se formule la question comme ça, ce n'est pas tout à fait certain qu'il trouve une réponse. Et en même temps, l'intérêt, c'est surtout de remarquer d'abord qu'il y a un art pariétal. Ça nous paraît presque évident à nous, mais en fait, ça l'est pour peu de personnes. Moi, je suis toujours étonné et fasciné avec un fond d'inquiétude, je dois le dire, quand je découvre que la plupart des gens ne connaissent pas du tout l'existence de cet art-là, hein, qui est pourtant, en Europe de l'Ouest, au moins à 37 000 ans, en Indonésie, à plus de 45 000. Et donc, c'est très important de comprendre qu'il a existé, parce que ça signifie aussi, et là, on entre dans une dimension où les humains que nous sommes sont indissociables de leur propre représentation symbolique, ça nous met face à une humanité qui est la nôtre, qui est absolument indissociable de la production d'un art symbolique, justement. Et alors, qui peut passer par cet art pariétal, qui peut également passer par d'autres dimensions importantes, mais ça veut dire que celui que nous sommes, il est absolument incompréhensible d'en avoir la moindre idée, sans prendre au sérieux les type de production qu'il a réalisé, et notamment l'art figuratif. Donc ça, pour moi, c'est la grande question, c'est-à-dire c'est moins ce que ça veut dire, parce que sur le fond, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de réponses à cette question, ni même que la question soit tout à fait pertinente, mais que ça ait eu lieu et que ça soit indissociable de ce que nous sommes, ça me paraît très important. Alors, sans compter le fait que cet art, il a un motif récurrent, dominant, qui n'est plus du tout le nôtre et qui est incompréhensible pour nous aujourd'hui, à savoir la représentation d'un vaste bestiaire, en fait, qui n'est pas si vaste que ça, puisqu'en fait, il est même assez limité, très sélectif. Mais un bestiaire est là pour reprendre une formule que, Bruno, tu mentionnais préalablement, c'est-à-dire un bestiaire extraordinairement stable. Et alors, c'est d'autant plus intriguant que, avec l'avancée de la paléogénomique, on dit que les populations qui ont produit l'art de Chauvet ne sont pas tout à fait celles qui ont produit l'art de Lascaux. Malgré tout, elles ont le même type de production symbolique. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est un bestiaire. Et donc, ça, à comprendre, c'est majeur, en fait. Et insister sur ce point-là me semble être un des éléments les plus essentiels à comprendre.
Alors, un bestiaire avec beaucoup de signes, beaucoup de traits, beaucoup de formes d'expression dans les cavités. Et on n'a pas découvert probablement certaines formes d'expression qui ont existé à cette époque-là.
Oui, mais elles sont quand même relativement constantes dans le temps au niveau de ces symboles animaux et qui sont prééminents avec un art avec des expressions géométriques qui coexistent. Et que les deux expressions restent stables avec les mêmes rapports pendant une telle durée, à travers de telles durées culturelles, à travers une telle étendue géographique de l'Eurasie, puisque les formes de cet art figuratif et des signes évoluent, mais restent le même jusqu'au début de la Sibérie, donc un très vaste espace. Et malgré les groupes culturels, les traditions, les langages et probablement les mythes de ces groupes-là. Et là, on est quand même dans une espèce de mystère sur le fonctionnement, mais en même temps, la base structurelle de la pensée de ces sapiens-là, qui, par-delà leur langue et leur variabilité, ont une structure mythographique qui est aussi stable, aussi
aussi réduites, pourrait-on dire, alors que forcément, ils sont population de traditions orales et ont une grande luxuriance d'expression. Nous n'avons pas abordé à proprement parler ce sujet. Il était au-delà de cet ouvrage et il reste la question majeure qui reste à débattre, qui est celle de la signification, mais probablement aussi de la fonction et surtout de l'origine de l'inspiration de la pensée des Sapiens. Ce ne sont peut-être pas eux qui l'ont porté. Il hérite peut-être des humanités précédentes.
Vaste problématique. Alors, le temps passant vite, je passe à la quatrième et dernière partie de l'ouvrage qui s'appelle « Partager la préhistoire ». Et cette partie, moi, m'a beaucoup intéressé parce qu'effectivement, elle s'interroge pas mal sur comment on peut la raconter, cette préhistoire, quels sont les enjeux, est-ce que c'est si facile que cela de la raconter. On peut penser à certains produits culturels assez récents qui ont rencontré un énorme succès à la fois médiatique et de vente et qui ont été accueillis dans beaucoup de structures muséales ou dépendantes des monuments historiques, etc. Et j'aimerais avoir votre avis sur comment, selon vous, en ce début de 21e siècle, il conviendrait d'essayer de raconter différemment la préhistoire actuellement de ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent tout le temps, quasiment, avec un petit côté sensationnel, quel que soit le sujet. Philippe ou Jean-Michel ? En tout cas, moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour raconter la préhistoire qui tiendrait plus... compte de nos interrogations sur ce qu'on ne sait pas. Et c'est jamais ce qu'on présente en préhistoire. On présente toujours quelque chose qui est perçu comme étant des certitudes, bien souvent fausses. Et on connaît l'expérience qu'on a fait avec notre ami Nicolas sur un petit produit démographique qui a rencontré son succès.
Et oui,
qui était un fake et qui a touché beaucoup de monde.
Bien entendu. On dispose aujourd'hui plus que jamais d'un éventail de techniques et de solutions narratives pour parler de la préhistoire, pour la présenter, pour la faire vivre aux yeux du public et pour attirer le public. On n'a jamais eu autant d'aisance et nous avons une société qui est attirée. Effectivement, en plus. Donc, on est dans un rapport d'empathie qui est évident, avec un grand nombre aussi de résultats liés à la technicisation de nos disciplines dont on parle. Donc, on a de la précision, de l'information à faire partager. Et là, on doit... Je suis aussi quelqu'un qui est énormément dans l'attente. Nous avons essayé de montrer la diversité des compétences, des métiers, des champs d'intérêt qui sont mobilisés aujourd'hui par la préhistoire, et quelquefois en allant chercher assez loin. Tu attires le sujet sur la médiation télévisuelle et autres, mais malgré tout, il y a toujours... On reste assez matérialiste et assez simpliste dans la manière de traiter l'information relative à cette discipline et à cette science. Je dirais, et moi je l'élargis... un peu largement, du point de vue de la médiation culturelle, il n'y a pas énormément d'efforts qui sont faits pour parler des sciences. On ne met jamais les moyens que l'on met sur le grand spectacle et pour attirer le public, on ne met jamais les moyens sur la science comme on le met sur une fiction, quelle qu'elle soit. Mais c'est intéressant de dire pour le public que c'est à des rapports de 1 pour 1000. Et ça reste dommageable. Alors bien sûr, quand on voit le succès des quelques opérations qui fonctionnent bien avec des petits moyens, on se dit quand même, mais si on les multipliait, or, il y a bien la matière scientifique, mais à côté de cela, il n'y a pas un engouement à l'heure actuelle par les chaînes, par le service public, pour médiatiser cela, ce qui est effectivement dommage et on doit aller chercher alors qu'il y a de l'intérêt. Vous voyez, par exemple, on n'a pas voulu mettre une photo d'art préhistorique, mais ça, c'est une photo de la grotte Chauvet traitée par intelligence artificielle par une artiste contemporaine. Donc, c'est du Chauvet, c'est sorti de la préhistoire. C'est effectivement, mais simplement, on en est loin. Voilà ma réaction. Je regrette encore qu'on soit à balbutier et à chercher des moyens pour parler de sujets qui fascineraient le public si on avait vraiment les moyens de le faire et si on avait surtout beaucoup plus de moyens et de connivence avec les professionnels dans ce domaine-là.
Et Philippe, par rapport à cette question, les hypothèses, les théories en préhistoire, elles sont relativement éphémères. Finalement, quand on regarde celles qui ont été produites sur l'art pariétal, il y en a eu un certain nombre, etc., sur l'artisan de la transition. Comment tu penses que la philosophie pourrait aider les préhistoriens à améliorer la qualité du discours restitué vers un public qui n'est pas un public forcément d'amateurs éclairés pour justement sensibiliser au fait qu'à un moment, on ne présente que ce qui est, nous semble, l'interprétation la plus simple au regard de nos capacités d'analyse de certaines données.
Bien, justement, dans cette quatrième et dernière partie de l'ouvrage, on a vraiment essayé de donner la parole à des responsables de musées, à des personnes qui font de la vidéo aussi, du cinéma, et qui ont montré beaucoup d'inventivité. Et en fait, on était intéressé par donner la parole à tous ces gens-là pour qu'ils nous signalent les propositions qu'elles avaient à faire en cet ordre. Quand on est responsable d'un musée de préhistoire aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus se penser comme on se pensait au début du siècle précédent. Et donc, il faut trouver de nouveaux moyens, avoir de nouvelles idées. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Or, il y en a aussi. Il ne faut pas être trop pessimiste là-dessus. C'est-à-dire qu'un directeur de musée, il a toujours envie que son musée soit fréquenté, qu'il soit animé, que les gens s'intéressent à ce qui se montre et se produit. Et en fait, il y a pas mal d'inventivité. Donc, je porterai volontiers l'accent sur cet optimisme relatif, malgré tout, parce que l'intérêt pour la préhistoire, il existe pour le grand public. Mais c'est comme un intérêt de ce qui, à la fois, fascine et complètement méconnu la plupart du temps, pour les raisons qu'on a dites, hein, c'est-à-dire des échelles de temps inappropriables, en quelque sorte, des cultures très éloignées. En même temps, je suis frappé par l'inventivité de ce qui se propose. On donne la parole, par exemple, à Pascal Magontier dans ce texte, qui fait des films avec, d'ailleurs, Jean-Michel, montrant autrement ce qu'ils appellent les gestes de la préhistoire. C'est une chose tout à fait importante de montrer par des moyens vidéo très contemporains dans des formats brefs qui seront très accessibles au grand public, pas du tout bavards, mais au contraire très, très saisissants par le son qui est produit du geste ou des techniques appropriées. Eh bien, voilà, il y a d'autres moyens de montrer l'activité des préhistoriens et des avancées de la préhistoire, et je crois que les technologies contemporaines aujourd'hui le rendent possible. Donc, on peut être optimiste, le meilleur est encore à venir.
Alors, l'heure est bientôt terminée, et je vais vous proposer de répondre à une dernière question. Une dernière question qui n'est pas forcément une question traitée dans l'ouvrage, même si je pense que la lecture des différentes parties de l'ouvrage permettront aux personnes qui achèteront cet ouvrage de trouver des réponses. On est à un moment très particulier de notre préhistoire et de notre histoire évolutive, culturelle, comportementale, où nous avons enfin conscience de l'impact de nos activités sur les équilibres naturels. Et je ne dirais pas que c'est la question à $1 million, mais on se la pose très souvent, à savoir qu'est-ce que l'étude de la préhistoire, de notre passé, peut nous apporter pour essayer de trouver des réponses, des solutions à ce qui nous arrive très très vite, à savoir que le décalage entre nos comportements et la nécessité d'être beaucoup plus respectueux de la Terre et de ses équilibres naturels vont nous obliger à changer de façon draconienne nos habitudes.
Oui, c'est une. Nous avons à faire face à une prise de conscience pour ceux qui l'ont pas fait, et l'ouvrage peut contribuer à aider en ce sens qu'il y a des parties sur l'histoire du climat qui étaient traitées par Stéphanie Thiebaud, qui parle effectivement de cette récurrence, de cette ancienneté, des variations climatiques et en même temps des informations et des archives qui sont contenues dans les sites archéologiques qui nous permettent effectivement de documenter une situation. Et puis en même temps, on a aussi avec l'outil et le relais que représente et qu'on vient d'évoquer à travers la médiation culturelle, les musées d'archéologie, et nous leur avons donné beaucoup la place, les musées de l'archéologie se font aujourd'hui énormément le relais de cette situation, c'est-à-dire font le lien entre une situation dont on a des connaissances par rapport sur le passé lointain et une situation qui nous concerne aujourd'hui, mais avec une urgence particulière qui est celle d'une espèce humaine qui a tellement agi sur son environnement en tant que prédateur, en consommant énormément d'espace, mais aussi d'autres types d'espèces. Et je pense et je m'oriente effectivement sur un sentiment qui est apparu dans la bouche et dans les textes de plusieurs auteurs, responsables et conservateurs de musées, auteurs, artistes, écrivains, etc., philosophes aussi, qui ont parlé de l'altérité à l'égard du préhistorique, de l'altérité à l'égard des temps préhistoriques. Donc il y a une prise de conscience de l'autre, des autres dans le temps et des autres aujourd'hui dans l'espace dans lequel nous vivons et que nous partageons. Et l'émergence de cette notion d'altérité est pour moi synonyme de quelque chose de positif par rapport à cette situation dramatique, si elle l'est.
Philippe ?
Oui, moi je dirais que, bien que ça ne s'apparaisse pas explicitement dans le titre de cet ouvrage, mais que préhistoire mérite aussi un S. Il y a des préhistoires, et comme il y a des préhistoires, et bien ça signifie aussi qu'il ne faut pas confondre, par exemple, le paléolithique récent et puis le début de la néolithisation, et qu'il y a peut-être là quelque chose comme un tournant majeur qui explique aussi ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire que c'est vrai que dans cet ouvrage, on a beaucoup parlé, essentiellement parlé du paléolithique récent, parce que c'est aussi ce qui nous intéressait le plus, hein, là où et très peu du processus de néolithisation. Mais si on veut comprendre ce que nous sommes devenus, il faut comprendre les deux, et donc préhistoire avec un S de nouveau.
Tout à fait d'accord avec toi sur préhistoire avec un S, ce sera un beau sujet de débat, parce que moi je m'amuse devant les étudiants devant lesquels je parle souvent, leur dire que c'était les sociétés du paléolithique récent qui étaient les premières sociétés capitalistes de la Terre. Et là je m'aperçois que des étudiants de nos masters ne savent pas ce que veut dire le mot capitalisme. Mais bon, c'est une façon de conclure cet échange. Philippe Grosot, Jean-Michel Jeunesse, merci beaucoup pour cette heure d'échange sur ce magnifique ouvrage « Préhistoire, nouvelles frontières ». J'engage toutes les personnes intéressées par la préhistoire et plus à lire cet ouvrage qui est absolument passionnant. Merci encore.
Merci à toi, merci à tous.